Oui, bonjour, c'était Valentine. J'habite à Nantes, j'ai 24 ans, je suis conductrice de poids lourd. Je vous vois déjà lever les sourcils. En fait, je voulais vous remercier parce que j'ai adoré votre émission sur le rap, entre autres. Parce que, ouais, moi, ça fait des années que j'écoute ça et franchement, d'écouter ça sur France Inter, ça fait vraiment plaisir parce que ça change un petit peu de... Enfin, j'aime beaucoup ce qui passe, mais... Enfin, ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui ça a dû ouvrir un peu les oreilles. Voilà. Bah, bon courage.
Bonjour, je réagis à l'émission de tout à l'heure, là. Eh bien, vous avez quand même oublié les rappeurs intello, enfin, en tout cas, le gars MC Solar qui a disparu de la circulation, et les intello rigolos, le Saen Soupacro. Merci pour eux, salut.
Malik de Paris. Bonjour Daniel, si je me souviens bien, il y a quelques années, un préfet de police avait fait interdire un concert d'NTM pour atteinte à la morale ou quelque chose comme ça. Ce préfet s'appelait, et s'appelle toujours Marciani. Et il est en tôle en ce moment, pour détournement, abus de biens sociaux, etc.
Oui, salut Daniel, super ton émission sur les rappeurs, ces grands humanistes. Mais je me pose la question, et tu aurais dû poser la question à tous ces groupes, enfin ceux dont tu as parlé, La Rumeur, TNT, Joey Star, Passy, bon, et j'en passe, Sniper, etc. Ces grands humanistes, donc, leur Mercedes, ils l'ont garé où? Ils les ont garé où, leur voiture, pendant cette nuit de folie et d'incendie?
Oui, salut... Je voulais simplement poser une question. Je voulais savoir si Monsieur Serge Julie allait baisser son salaire pour sauver le journal Libération.
Un petit coucou de Calais pour un point météo. Il est 19h30, il fait 4 degrés. Un petit coulis bien glacial souffle d'on ne sait trop où, mais l'averse de grêle est séchée depuis bien longtemps. Il erre dans les rues de cette ville, des gens qui ne trouvent plus un sans-gâte ou s'abriter. Et je viens d'avoir une idée de génie. Eux aussi, on devrait leur faire payer une taxe d'habitation. Mais là, il y a un dilemme. S'ils reçoivent une taxe d'habitation, ils ne seront plus sans papier. Un petit clin d'œil à Monsieur Swift.
Oui, bonjour, Patrice, dans les Pyrénées-Audoises. C'est pour une petite piqûre de rappel. C'est pour rappeler que ce vendredi soir, il y aura la réunion du premier repère des ennemis de la bonne si j'y suis, la Pradel Pulance. Ciao à tous, 18h30. Ciao.
Oui, salut, c'est Marianne. Juste pour vous dire que samedi, c'est la journée sans achat, c'est organisé par les casseurs de pubs. Alors je trouve que c'est une très très bonne initiative, montrer un petit peu qu'on n'est pas des robots consuméristes. Et j'ai une autre idée pour les journalistes, ce serait pas mal d'organiser une journée sans Sarkozy. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, salut.
Ouais, ben les deux c'est difficile, hein. La journée sans Sarkozy c'est pas facile, et la journée sans achat, ben ça c'est demain. C'est vrai que se développe l'idée de... Et l'expression objecteur de croissance, c'est une expression qui se développe, décoloniser l'imaginaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre de Serge Latouche qu'on avait reçu, un apôtre de l'anticroissance. On va le retrouver aujourd'hui, je trouve que ça tombe bien par rapport à cette journée de demain, organisée, comme vient de le dire cette auditrice sur le répondeur de la base législative au 01 56 40 37 37, à l'initiative des casseurs de pubs. C'est un combat déjà ancien que cette lutte contre la société de consommation, souvenez-vous, Debord, Pérec, Weinegem, ceux qui, au début des, à la fin des années 50 déjà, avaient compris ce virage que prenait notre monde. Donc demain, journée sans achat, je ne sais pas si on va y arriver à rien acheter demain, mais on peut toujours essayer, organisé donc par ces hardis casseurs de pub. Et aujourd'hui donc Serge Latouche, vous avez entendu aussi ce rendez-vous qui est donné aux amis de là-bas si j'y suis, dans ce nouveau repère à La Pradelle puis Morin, c'est aujourd'hui à 18h. Et puis je voudrais dire quelque chose un petit peu hors des propos habituels dans cette émission concernant les propos tenus par Alain Finkielkraut dans le journal Arès, dont on s'est fait l'écho dans cette émission il y a déjà quelques jours. Et j'apprends que le MRAP va poursuivre, a le projet de poursuivre en justice Alain Finkielkraut pour des propos tenus donc dans ce journal israélien le 18 novembre. Pour le MRAP, ces propos relèvent de l'incitation à la haine raciale. Et en outre, le MRAP a le projet d'intervenir auprès du CSA pour que l'émission animée par Finkielkraut le samedi matin sur France Culture lui soit supprimée. Eh bien, malgré ma vieille amitié pour le MRAP qui m'a toujours soutenu, je tiens à dire que je ne crois pas que cette démarche soit opportune. Et pourtant, certains auditeurs s'en souviennent peut-être, j'ai moi-même fait l'objet de poursuites en justice acharnées de la part des amis d'Alain Finkielkraut, qui est lui-même venu au tribunal pour me faire condamner en vain, puisque à chaque fois j'ai été acquitté. Mais cependant, même si en effet les propos tenus par Alain Finkielkraut dans le Haaretz aurait pu être signé par le Front National, même si j'ai une confiance aveugle dans la justice de mon pays, je pense que ce n'est pas au juge de combattre de tels propos. Avant de s'en remettre au juge, il faut d'abord un débat, non pas sur les propos, mais sur cette pensée et sur ces idées qui veulent imposer une vision ethnico-religieuse et communautaire du monde, une guerre entre le monde judéo-chrétien civilisé et la barbarie arabo-musulmane. Je simplifie, mais c'est quand même ça dont il est question par le moyen d'un terrorisme intellectuel imposé par le chantage permanent à l'antisémitisme. Et les juges et les tribunaux ne sont pas là pour débattre de ces questions. Ils sont là pour appliquer la loi, pour dire si telle ou telle phrase, tel ou tel mot est en l'occurrence condamnable, même si le mot, la phrase, n'a rien à voir avec la pensée de l'auteur. On l'a vu avec Edgar Morin, qui a été condamné en appel pour des phrases soigneusement détachées de l'ensemble du texte, l'ensemble de la réflexion d'Edgar Morin concernant le Proche-Orient et ce conflit et ses répercussions dans notre société. Alors, d'abord un débat courageux, polémique, emporté, un débat public. Et là, c'est le rôle des intellos, c'est le rôle des journalistes et de tout ce que d'animer, de participer courageusement et vigoureusement à ce débat. Évidemment, on peut comprendre le désarroi d'Alain Finkielkraut concernant les violences auxquelles on vient d'assister, les violences dans les quartiers, puisqu'en effet, aucun acte antisémite n'a été déploré. Alors que depuis des années, Alain Finkielkraut et ses amis nous assurent que le nouvel antisémitisme provient en grande partie de ces quartiers, de ces banlieues hantées et dominées par l'islamisme. Donc, ma position, je la répète, elle est que je ne crois pas utile d'entamer des poursuites en justice et surtout certainement pas d'interdire l'émission d'Alain Finkielkraut sur France Culture. Nous sommes au pays de Voltaire à qui on attribue la phrase fameuse « Je ne partage pas vos idées, mais je ferai tout pour que vous puissiez les exprimer ».
Bonjour, c'est Étienne du Maine-et-Loire. Je regarde la télé ce matin et ça y est, il y a le premier chômeur qui a été expulsé de chez lui, qui est mort dans sa voiture. Les journalistes présentent ça, conséquence du froid. C'est pas une conséquence du froid, c'est une conséquence de la misère et la situation dans laquelle se retrouvent pas mal de gens en France. Ça fout vraiment en colère. Salut.
Lors d'une tournée Croix-Rouge, le mardi, nous avons ramassé une dame à la gare de Melun et nous avons donc cherché une place dans un foyer. La dame a accepté, nous l'avons emmenée au foyer. Quand on s'est présenté au foyer, on nous a dit « elle n'a pas de papier, donc on ne peut pas l'accepter ». Et donc voilà, le problème, c'est que si vous n'avez pas de papier, si vous êtes SDF, il n'y a pas de place pour vous dans les foyers. Alors je suis à la Croix-Rouge, au SAMU social, mais je dois rester neutre. Chut.
J'ai peur. J'ai pas peur du rap, ça n'a rien à voir. J'ai peur parce que demain j'ai rendez-vous à la NPE. Je touche les ASS depuis longtemps, bien trop longtemps, paraît-il. Et j'ai rendez-vous demain. J'habite à 1000 mètres, dans la montagne, en Ariège. Il va neiger cette nuit entre 700 et 800 mètres, paraît-il, c'est Météo France. J'ai envie d'y aller à ce rendez-vous, franchement. C'est pas le moment d'être radié. Il fait froid. Et j'ai téléphoné à l'NPE, pas moyen d'avoir quelqu'un d'humain, non. Tout est centralisé à Toulouse maintenant. Ça sent le piège. J'ai peur. J'ai pas envie d'être radié. Et puis, voilà. Allez, ciao.
Il y a trois jours, une centaine de députés UMP ont passé nuitamment un amendement à la loi de finances 2006. Cet amendement instaure une taxe d'habitation de 75 euros par mètre carré de caravane pour les gens du voyage, soi-disant pour aider les maires à construire les aires d'accueil pour les nomades. Magnifique et pas discriminatoire pour un sou, n'est-ce pas, monsieur le président de la République ? La loi sur les aires d'accueil n'est pas respectée. On instaure une taxe spécifique pour les gens du voyage. Et la prochaine étape, la réouverture des camps de Baume-la-Rolande, de Pithiviers, de Montreuil-Bellay et de quelques autres d'aussi sinistre mémoire, c'était Pierre-Yves, d'Indre-et-Loire.
Un petit coucou de Calais pour un point météo. Il est 19h30, il fait 4 degrés. Un petit coulis bien glacial souffle d'on ne sait trop où, mais l'averse de grêle est séchée depuis bien longtemps. Il erre dans les rues de cette ville des gens qui ne trouvent plus un sans-gâte où s'abriter. Et je viens d'avoir une idée de génie. Eux aussi, on devrait leur faire payer une taxe d'habitation. Mais là, il y a un dilemme. S'ils reçoivent une taxe d'habitation, ils ne seront plus sans papier. Un petit clin d'œil à Monsieur Swift.
Alors que les traminots marseillais reprennent le travail après 46 jours de grève, alors que les enseignants sont en grève, le chef de l'État et son ministre des Affaires sociales sont en visite dans un grand centre de formation privé tenu par Veolia. C'est pas un hasard si le chef de l'État a choisi ce jour pour effectuer cette visite, initialement prévue au mois de septembre, mais on se souvient des ennuis de santé de Monsieur Chirac. Non, c'est pas un hasard si c'est justement chez Veolia que se sont rendus ces deux hommes. Alors que les traminots se sont battus pendant un mois et demi contre la délégation de services publics attribuée à la Conex, filiale du groupe Veolia, messieurs Chirac et Borloo viennent applaudir dès demain le magnifique travail de formation de cette entreprise spécialiste de la délégation de services publics. Ils auront certainement croisé les futurs employés de la Conex qui remplaceront progressivement les salariés de la RTM d'aujourd'hui. Ils les auront félicités pour leur parcours, leur volonté d'entrer dans le groupe Veolia en pleine expansion, société au capital de 5 452 478 388 euros. Une entreprise qui siège évidemment en région Île-de-France et qui bénéficie des aides de la région Île-de-France. Voilà. Alors que les enseignants sont en grève aujourd'hui, alors que les traminots reprennent le travail aujourd'hui, quel mépris. Quel mépris pour le travail des enseignants, quel mépris pour les traminots, quel mépris pour les services publics. Merci, Monsieur Chirac.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Serge Latouche, décoloniser l'imaginaire.
Flight number 2, arriving from...
Aujourd'hui, on va rencontrer Serge Latouche. Serge Latouche est économiste, philosophe, professeur et émérite d'économie à l'Université Paris-Sud. Il est président de l'association Ligne d'Horizon, il fait un tas de choses. Et il a consacré beaucoup de temps de sa vie et de ses écrits au développement et à la croissance économique. Ou plutôt, comme je disais tout à l'heure, à l'anticroissance, la contre-croissance, la décroissance. Alors, c'est des mots qu'on entend à longueur de journée. Les chiffres de la croissance, il faut de la croissance. La gauche comme la droite sont d'accord. Il faut de la croissance parce que la croissance créerait... ce serait bien, la croissance, c'est bien, c'est beau. Ça crée de l'emploi, par exemple. Ça fait un tas de bonnes choses. Enfin, c'est une évidence. Or, c'est pas une évidence pour tout le monde et c'est pas une évidence pour Serge Latouche. Il n'est pas le premier à mettre en cause la croissance. Depuis le début des années 70, des gens mettent la croissance en doute. François Partant, Ilan Illich, et Ellul, Jacques Ellul, vous vous souvenez qu'on avait évoqué un de ses bouquins
Voilà, c'est des penseurs qui sont comme ça, pas très connus, mais qui sont tenaces. Tenaces dans la mesure où leurs idées, leurs pensées s'articulent sur des idées du 19e siècle. Et quelle pensée ? Bien, celle de ceux que les marxistes appellent les socialistes de l'utopie, c'est-à-dire avec une petite pointe, mais plus une grosse pointe de mépris, en disant, oui, bon, ben, ceux-là, ils sont dans l'utopie. Or, ces utopistes, ben, ils ont, à l'époque, tâché de présenter des contre-feux, des contre-pouvoirs, des alternatives au capitalisme grandissant, féroce, envahissant, destructeur. Ils avaient déjà compris qu'évidemment, tout ça conduisait à certaines destructions humaines, sociales et environnementales. Alors l'environnement, je ne sais pas si on en avait une... C'était une préoccupation au début du 19e siècle, mais en tous les cas, ça l'est devenu à notre époque, et c'est une des idées de Serge Latouche et d'autres qui sont intéressés par ce courant de propositions et de pensées, qui est de dire il faut arrêter la croissance. Alors, ça peut paraître provoquant, ça peut paraître évidemment la première question qu'on se pose, mais alors, qu'est-ce que vous voulez, c'est revenir au temps de la lampe à huile. Voilà pourquoi on va passer cette heure avec Serge Latouche, décoloniser l'imaginaire.
Aujourd'hui, 20% de la population mondiale, les pays riches, consomment 80% des ressources naturelles de la planète. Alors le 26 novembre, à l'occasion de la journée sans achat, faites un geste pour la Terre. Arrêtez d'acheter.
Merci. Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpel, Hermès, Converse, Yamamoto, Petit Bateau Dim, Prada, Armani, Elena Rubinstein.
Serge Latouche, je me demandais, hein, en vous voyant arriver, combien de fois on vous a dit, mais vos idées, ça consiste à revenir au temps de la lampe à huile et de de l'âge de pierre.
Oui, alors je pense que c'est une question qui a dû être aussi posée à Ivan Illich, qui est considéré comme un des inspirateurs. Et alors je réponds, quand on me demande ça, je dis toujours non, je veux revenir beaucoup plus en arrière. Chez nos cousins bonobos qui avaient inventé une culture fantastique et qui préféraient faire l'amour plutôt que la guerre. Blague ouais. À part, je crois que, puisque la question essentielle à l'heure actuelle, c'est que notre impact sur la biosphère est excessif, hein, ce qu'on appelle l'empreinte écologique, hein, que nous consommons, comme disait notre président à Johannesburg, trois planètes, c'est de nous ramener à une seule planète. Or, il n'y a pas si longtemps que l'empreinte écologique de la France, par exemple dans les années 70 encore, nous ne consommions qu'une planète. C'est-à-dire que revenir au niveau de vie, bon, évidemment ça suppose une toute autre organisation des années 70, c'est pas quelque chose d'absolument catastrophique.
Et on va prendre des mots simples, des mots très, très communs,
quotidiennement entendu. On va prendre le mot croissance. Hein, ça, c'est un des mots que vous avez sans doute le plus prononcé dans votre vie. On nous dit, il faut de la croissance, ayons une politique de croissance. Et la croissance, c'est presque, c'est bien, c'est beau, c'est comme le progrès. Enfin, c'est toutes ces choses qui sont positives. Hein. Et la croissance, eh bien, ça amènera à l'emploi. La croissance, enfin, voilà l'avenir, voilà le but. On entend ce mot à longueur de journée. Et vous faites partie de ceux, et depuis longtemps, pour ce qui vous concerne, qui disent non. Alors, non à la croissance. Quel sens, d'abord, vous donnez à ce mot croissance? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot?
Alors, bon, on sait que la croissance économique, c'est dont on a un indice qui est fétiche, qui est la croissance du produit intérieur brut, global ou par tête. Et alors, quand on dit croissance, c'est un mot piège, parce que, bien évidemment, qui peut être contre la croissance? En fait, il faut penser que nous sommes dans une société de croissance, c'est-à-dire un système organisé où la croissance est un but en elle-même. C'est un système qui est fondé sur la croissance pour la croissance. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire croître la production pour faire croître la consommation, pour faire croître la production. Pour faire croître, c'est un cercle infini. On pourrait parler du synclodrome du rasoir électrique de Nicolas Gerhardsgruen. Il disait, pourquoi inventer un rasoir plus performant? Pour gagner du temps. Mais pourquoi gagner du temps? Pour pouvoir inventer un rasoir encore plus performant, pour gagner du temps, pour inventer. Ben, on est un peu dans cette espèce de cercle vicieux du toujours plus, d'une absence de limite.
Est-ce que la croissance crée de l'emploi? Parce que c'est ce qu'on le dit en permanence.
Dans les années qu'on appelle les 30 glorieuses, incontestablement, la croissance a créé des emplois. Il faut voir à quel prix, mais elle a créé des emplois.
45-75, la croissance crée de l'emploi.
Créait des emplois. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la croissance, ou en tout cas les taux de croissance que nous connaissons dans les pays occidentaux, ne crée plus d'emplois, elle en détruit. Bien sûr, une récession en détruit encore plus. Donc on est pris dans un piège. C'est-à-dire, si l'on ne croit pas assez, il y a du chômage. Et si l'on ne croit pas du tout, il y a encore plus de chômage. Donc, à l'heure actuelle, pour pouvoir créer des emplois, il faudrait des taux de croissance supérieurs à 3%, ce qui est extrêmement difficile pour les pays du Nord.
Alors vous faites, dans la critique que vous faites de la croissance, vous dites la société de croissance engendre des inégalités, des injustices, crée un bien-être illusoire et une anti-société malade de sa richesse. Alors, est-ce que vous pouvez développer un peu ces...
Oui, alors bon, on pourrait écrire des livres là-dessus. La croissance à l'heure actuelle, bon, engendre d'abord un prélèvement sur la nature qui n'est plus soutenable. C'est-à-dire que pour continuer à croître, nous devons détruire toujours plus notre habitat, hein, produire des gaz à effet de serre qui ont comme conséquence maintenant acceptée à peu près par tous le dérèglement climatique. Nous devons produire toujours plus de déchets dont nous ne savons plus que faire, détruire les matières premières, détruire les forêts, etc. Donc alors, les retombées qui ne sont pas comptabilisés, mais qui se traduisent sous forme de dysfonctionnement, de coûts pour les individus, qui sont obligés, par exemple, à cause de la pollution. On connaît maintenant le rapport du professeur Belpomme sur les effets cancérigènes des rejets dans l'atmosphère, des métaux lourds, des quantités de choses. Et nous sommes tous plus ou moins... Enfin, tout homme bien portant maintenant est un malade qui s'ignore, et donc nous devons continuellement prendre des médicaments pour compenser les dysfonctionnements sanitaires engendrés par la pollution. Donc on est arrivé à un moment, comme je dis, la croissance crée un bien-être illusoire. On en a des indices assez solides. Un ancien directeur de la Banque mondiale, qui n'est pas Stiglitz, mais qui est plus ancien, Herman Daly, a mis au point ce qu'il appelle « Genuine Progress Indicator », c'est-à-dire un indice du progrès authentique, du bien-être authentique. Et il montre pour les États-Unis qu'à partir des années 70, il y a ce que les statisticiens appellent un ciseau, c'est-à-dire qu'alors que le produit intérieur brut continue à augmenter, le bien-être diminue. Mmh. Alors l'idée provocatrice un peu qui nous est venue, c'est que si on diminuait le produit intérieur brut, on augmenterait de nouveau le bien-être, on renverserait le ciseau.
pollution des ressources naturelles, fossiles, minières, pollution atmosphérique, bétonnage massif, la civilisation automobile nous conduit droit à l'holocauste écologique. Plus sûrement que toutes les dictatures, elle extermine la vie sur Terre, sans différence de sexe, de race, d'espèce animale ou végétale. Le régiment des hommes nouveaux, dans leur armure d'acier, écrase toute résistance. Rien d'étonnant alors que des groupes industriels, fleurons d'anciens régimes totalitaires, collaborent à cette destruction annoncée.
Vous dites, la société de croissance engendre des inégalités, des injustices. Dans quelle mesure ?
Alors, là, je crois qu'il suffit de lire les rapports annuels du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, oui. Qui est un catalogue d'horreurs chaque année, où on apprend qu'il y a toujours, il y a encore un peu plus d'injustices dans le monde. Il y a quelques années, les 15 plus grandes fortunes de la planète avaient un patrimoine supérieur au produit de toute l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire 600 à 700 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est plus 15, c'est 3. Alors on a d'un côté 3 personnes immensément riches et 600 millions de gens qui se débrouillent avec presque rien. Mm-hmm. Bon, je prends cet exemple parce qu'il est... Bon, mais il y en a des quantités comme ça. Et ces inégalités se sont développées de façon fantastique à partir des années Reagan-Thatcher. Où ce qui était nouveau, parce qu'on peut dire quand même que pendant les 30 glorieuses, il y avait une certaine répartition des fruits de cette croissance. À l'heure actuelle, il n'y a plus de répartition, c'est-à-dire que les riches deviennent toujours plus riches, au nord comme au sud, et les pauvres toujours plus pauvres.
Est-ce que c'est pas tout simplement le libéralisme ou le capitalisme que vous attaquez, enfin qui produit cette croissance
Alors, nous avons eu pendant 70 ans l'expérience d'une société qui pensait rompre avec le capitalisme, mais qui n'a pas rompu avec la société de croissance. C'est-à-dire qui partageait le même imaginaire d'une croissance pour la croissance et qui engendrait les mêmes conséquences au niveau écologique, il suffit de penser à Tchernobyl, mais aussi au niveau social, finalement, un peu moins, il y avait sans doute un peu moins d'inégalités, mais il y avait le même imaginaire de la croissance pour la croissance. Ça se traduisait aussi moins de consommation individuelle, mais plus de consommation militaire. Donc il s'agit bien sûr de remettre en cause le capitalisme, mais derrière le capitalisme, ce que le capitalisme partage avec ce qui était considéré comme son autre, le socialisme, tout un imaginaire du progrès, de la croissance, du toujours plus, d'une vision de l'histoire, d'un sens de l'histoire linéaire, pensant que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, lequel était meilleur qu'hier, etc.
Et ça, vous n'y croyez pas. Pour vous, dans votre travail, dans votre recherche, où vous placez la notion de progrès là-dedans ?
Non, alors, je crois que le progrès est une croyance, il fait partie de la foi. Alors moi, je l'ai eu, je suis parti dans les années 60 en Afrique pour développer l'Afrique, puis ensuite je suis parti au Laos pour faire la comptabilité nationale du Laos, donc j'y ai cru, la planification, tout ça. J'ai perdu la foi dans ces années-là, 67, 68, par là, parce que surtout au Laos, j'ai vu une société traditionnelle heureuse. Toutes les sociétés traditionnelles ne sont pas heureuses, toutes les sociétés heureuses ont aussi des problèmes. Enfin, j'ai vu une société relativement heureuse qui ne demandait qu'une chose, c'est qu'on lui foute la paix. Alors les Américains bombardaient d'un côté, les Chinois, les Vietnamiens de l'autre, etc. Et les gens aspiraient qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse tranquilles vivre, semer leur riz, écouter leur riz pousser et vivre autour de leur pagode. Alors on a détruit cette société au nom du développement, du progrès, de la croissance, etc. Donc ça fait réfléchir quand même.
Alors, d'où votre travail sur la décroissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la décroissance ? C'est pas un mot nouveau, on avait apparaître ce mot au début des années 70. La décroissance.
Oui, alors la décroissance, c'est pas le symétrique de la croissance. La croissance est un concept on a fait des théories de la croissance. La décroissance, c'est un slogan qui, comme tout slogan, a pour objectif de provoquer d'abord une sidération, parce qu'on dit comment c'est possible de se mettre derrière la bannière de la décroissance. Ça veut dire en fait le mot qui serait le plus juste serait de parler d'accroissance avec le A privatif grec, comme on parle d'athéisme. Et il s'agit bien de la même chose, il s'agit bien d'une question de religion et de foi. La croissance est une religion, donc il s'agit de casser ce culte de la croissance pour la croissance. Bien évidemment, ça serait absurde d'adorer la décroissance pour la décroissance. C'est pour marquer la rupture avec tout cet imaginaire qu'on a évoqué de la croissance, du progrès, du développement, pour retrouver ce que pourrait être la construction d'une société autonome, économe, solidaire, conviviale.
Dégradation de l'environnement, sexisme, reflet d'une image de nous basée uniquement sur l'apparence, elle galvaude les mots et les idées. Elle veut réduire l'homme à un consommateur où l'avoir prime sur l'être. Elle veut nous faire croire que le bonheur, c'est de consommer. Insidieuse, elle détourne les idéaux à une seule fin, le profit. L'idéologie publicitaire est violente et destructrice. Elle manipule, elle désinforme, elle abîme. Abat la pub. R.A.P. Résistance à l'agression publicitaire.
Le problème, c'est qu'on est dans une société du toujours plus. Donc on est sûr que cette société n'engendrera jamais la satisfaction. Puisque tout l'objectif de la publicité, c'est de nous convaincre que nous sommes insatisfaits de ce que nous avons pour désirer ce que nous n'avons pas. Donc plus nous en avons, moins nous sommes satisfaits, parce qu'il en faut toujours plus. Une société peut, on peut penser construire une société apaisée avec elle-même si elle se donne un objectif qui est limité. C'est cette perte du sens des limites, ce que les Grecs considéraient comme le crime par excellence, l'hubris, la démesure. C'est ça qui est le problème de notre société.
Il y en a marre du commerce partout.
On avait des poules dans nos poulaillers, on avait des haricots dans nos jardins, on trouvait dans les bois de quoi se soigner, mais il n'y a plus que les pharmaciens. On fabriquait tous des jouets en bois, maintenant on casse tout ce en plastique. On en achète d'autres, on se tracasse pas, mais il n'y a plus un gosse qui fait de la musique. Alors qu'on consomme Simone comme une brave conne. Sinon à quoi ça sert qu'il travaille ton homme Simone? La 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 la. La 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 la. Remplis tes placards et prévois l'hiver. Le monde est si noir qu'on attend la guerre. Investis un peu dans une caméra. Et si tu ne le peux, la banque t'aidera. Profite surtout des crédits et des soldes, des achats en gros, de la visite de Jean-Paul. Achète-toi une robe à chaque occasion. Et n'écoute surtout que ta télévision. Vas-y, consomme Simone comme une brave conne. Sinon à quoi ça sert qu'il travaille ton homme Simone? La 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 la. La 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 la.
Consomme un max. J'emmerde les hyper et j'emmerde la pub. Il y en a marre du commerce partout, consomme c'est un max. C'est un monopole d'expression indigne, luttons contre la pub.
Alors concrètement, ça donnerait quoi dans la vie quotidienne, dans la... cette décroissance?
Alors,
ça s'appliquerait comment? Ça passerait par où? Parce que là, on est dans les idées. On dit, ben oui, oui, il a raison. C'est vrai qu'on gâche. C'est vrai qu'on esquinte tout. C'est vrai que cette société de consommation imbécile, on le sent tous. Enfin,
concrètement, on peut déjà, réduire considérablement. C'est d'ailleurs une nécessité auquel on sera contraint par la force des choses et probablement de la pire des façons, c'est-à-dire par la violence. On sera contraint de réduire notre niveau de vie, notre mode de vie, hein, parce que on aura épuisé nos ressources naturelles. Quand il n'y aura plus une goutte de pétrole, on sera bien obligé de laisser nos sacro-saintes voitures au vestiaire. Mais on peut la concevoir donc comme une réduction du fantastique gaspillage de nos sociétés. On peut penser que le budget mondial publicitaire, hein, et on peut penser que la publicité, donc j'ai dit qu'elle engendrait des insatisfactions psychologiques, mais elle engendre aussi une pollution visuelle, une pollution sonore, une pollution mentale, hein, une pollution spirituelle. Donc ça représente environ 400 à 500 milliards de dollars. C'est le deuxième budget mondial, à ma connaissance, après le budget militaire, qui lui aussi pourrait être redimensionné, 800 milliards de dollars. Bon, alors on a là des réserves énormes, qui, toutes choses égales d'ailleurs, permettraient d'améliorer les conditions de vie en diminuant l'empreinte écologique, en diminuant notre poids sur la biosphère. Bien évidemment, on pense, mais c'est totalement irréaliste, puisque le système repose sur la publicité. Donc ça suppose un changement de système, hein, et le changement de système, comme vous savez, ça se décrète pas vraiment, ça suppose aussi un changement d'imaginaire. Mais ça peut commencer, on peut commencer. Alors je pense qu'il y a toute une série de chaînons. On ne pourra pas bouleverser les choses brutalement, mais on peut commencer petit, on peut commencer là où on est, on peut commencer à tous les échelons, on peut commencer à tous les niveaux. L'un des niveaux les plus importants, à mon avis, c'est ce que nous appelons la relocalisation, retrouver le sens du local. Une des choses les plus aberrantes, c'est de penser que les consommations actuelles incorporent au minimum 5000 kilomètres de transport. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous portons. Et je prends toujours l'exemple un peu emblématique du petit yogourt à la fraise. Le Wuppertal Institute, qui est un grand institut écologique en Allemagne, a calculé que le petit yogourt à la fraise que l'on trouve sur les étals des supermarchés incorpore plus de 9000 kilomètres. C'est dingue. C'est dingue. Quand on pense, sans revenir à l'âge de pierre, que du temps de mes parents, de mes grands-parents, on mangeait du yaourt fabriqué à la maison, avec le lait de la ferme d'à côté et les fraises du jardin. C'est-à-dire, il incorporait quelques dizaines de mètres à pied. 9000 kilomètres pour un petit yogourt. Et c'est la même chose pour tout, avec les conséquences désastreuses, évidemment, c'est transport délirant qui engendre l'effet de serre et de temps en temps des catastrophes comme ce qui s'est passé sous le tunnel sur le Mont Blanc, qui est assez intéressant puisque les camions qui ont été cause de l'accident transportaient des pommes de terre qui venaient de Hollande et qui allaient en Italie pour se faire transformer en chips et pour retourner en Hollande. Est-ce vraiment raisonnable ?
Là-bas, on voit le Mont Blanc donc qui émerge du petit cumulus et puis le glacier qui descend là jusqu'à la forêt. Ce glacier qui a quand même bien diminué ces dernières années. Là, ces 10 dernières années, il y a eu un recul glaciaire dans la vallée de Chamonix et dans les autres vallées alpines d'ailleurs, qui est considérable, qui est de plusieurs centaines de mètres.
Là, Christine Mattel, on se trouve devant la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc. On a décrit le paysage en hauteur, on a le nez dans les nuages, mais au ras du sol, très concrètement, il y a trois camions italiens qui viennent de passer. Il y en a un quatrième qui passe, un cinquième derrière. Voilà.
Je fais mon travail, quoi. On m'a dit de passer par le Mont-Blanc, c'est tout.
Et vous livrez quoi, alors ?
Du cochon.
Jambon, épaule, tout ce qui est en viande fraîche. On travaille pour les abattoirs du côté de chez nous, et puis on livre sur l'Italie.
Et vous trouvez qu'il commence à y avoir trop de camions ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
On va voir les anciens, là, il y a bien plus qu'avant.
Il me reste 2 ans à faire, et vivement, je me casse. On a plein le cul, on peut plus rouler.
Moi, ouais, ça m'est complètement égal, l'année prochaine, j'arrête.
Où est-ce que vous mettez le travail dans votre idée, dans votre projet, l'activité humaine, où est-ce que vous la mettez? Parce que on nous dit, à longueur de journée, il faut de la croissance pour avoir de l'emploi. Hein. Où est-ce que vous placez l'activité humaine là-dedans? Je sais que Jacques Ellul, dont on a parlé dans une émission, je crois l'année dernière, prétendait qu'on pouvait arriver à travailler 2 heures par jour.
Hein. Oui, j'en suis convaincu moi aussi.
2 heures par jour.
Je pense, enfin je ne sais pas si c'est 2 ou 3, oui, enfin, oui, c'est pas important, même si c'est 10, parce que d'abord, il faut abolir la notion de travail, je crois, la question. Je pense que vous comme moi, nous sommes partis de gens qui ne savons pas où passe la frontière entre le travail et le non-travail. C'est-à-dire, nous avons une activité, est-ce 10 heures, 12 heures par jour, 8 heures personnellement, j'en sais rien, parce que j'ai la chance de faire des choses qui me plaisent, je compte pas. Donc, c'est précisément ça auquel il faut arriver, c'est-à-dire abolir cette obsession du travail. Alors, on est, à l'heure actuelle, on est dans un monde absolument délirant. Je pense en France, on dit les Français travaillent pas assez, ils travaillent trop, enfin, on sait plus où on en est. Le travail est une pièce maîtresse de la société de croissance, avec l'idée produire toujours plus, pour consommer toujours plus, pour produire toujours plus, et pour ça, travailler toujours plus. Donc, en fait, malgré les réductions théoriques des horaires de travail, en fait, on n'a jamais autant travaillé indirectement, ou tout au moins ce qu'on pourrait appeler le temps contraint, parce que quand on diminue les horaires de travail, on augmente les horaires de transport. Donc on a un temps contraint qui finalement est toujours plus fort. On n'a jamais, depuis l'histoire du capitalisme, transformé les gains fantastiques de productivité en réduction de la pénibilité. Donc la première chose, c'est aussi de sortir de la religion du travail. Sortir de la religion du travail, découvrir les autres dimensions de l'activité humaine. Alors j'aime beaucoup l'analyse que faisait Hannah Arendt. Bon, il y a deux. D'abord une division fondamentale, la via contemplativa et la via activa, c'est-à-dire la vie active et la vie contemplative. Toutes les sociétés ont connu, ont accordé une part énorme à la vie contemplative. Nous l'avons complètement rayée à partir du 16e, 17e siècle, elle a été rayée de la carte. Mais à l'intérieur de la vie active, il y a le travail, il y a l'œuvre et il y a l'art.
Le travail, l'œuvre et l'art.
Oui.
Okay.
Nous avons à l'heure actuelle, en fait, réduit l'art et l'œuvre Hein, l'avons soumis aussi au travail. C'est-à-dire que le travail est devenu le paradigme dominant de toute activité humaine.
Mm-hmm. Vous avez des maîtres, vous avez des références, pas seulement Hannah Arendt. On a parlé de Jacques Ellul, de François Partant. Parlez un peu de François Partant.
Alors, je suis, comme vous le savez, président d'une association qui s'appelle La Ligne d'Horizon ou Association des Amis de François Partant. Donc, je m'inscris évidemment dans le fil de cette pensée qui est effectivement assez proche aussi de celle de Jacques Ellul et d'Ivan Illich. Vous rappelez qu'Illich se considérait comme un disciple de Jacques Ellul. Hein, donc, il y a toute une filiation de ce courant critique du système, mais en même temps qui cherche la voie dans des alternatives d'un autre type par rapport à la grande alternative en Occident qui a été le marxisme et le socialisme. Parce que l'analyse se base sur une critique qui n'a malheureusement pas été faite par Marx, c'était la critique de la technique, de la société technicienne, même la critique du travail et la dimension écologique. Alors on pourrait citer d'autres prophètes en quelque sorte, revenir à Gortz aussi, toujours
André Gortz,
qui a une pensée importante, et Cornelius Castoriadis, parce que l'idée de société autonome est effectivement d'une société auto-instituée, fait partie de notre projet. Et
Cette émission depuis des années est placée sous les auspices de Cornelius Castoriadis.
Il y a eu ce retour du libéralisme, et moi je...
Castoriadis, 1996, là-bas, si j'y suis.
Enfin, je suis sûr, on ne peut jamais être sûr en histoire, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je ne vois pas comment l'Europe, en tout cas, pourra sortir de cette crise dans laquelle elle est. Or, les libéraux viennent et disent, il faut faire confiance au marché, etc., etc. Mais enfin, ce que disent maintenant les néolibéraux, c'est les économistes académiques eux-mêmes qui l'ont réfuté pendant les années 30. Ils ont montré qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans les sociétés capitalistes. C'était pas des révolutionnaires. C'était pas des marxistes. Ils ont montré aussi que tout ce que racontent les libéraux sur les vertus du marché, comme quoi il garantit une allocation, la meilleure allocation possible des ressources, la distribution du revenu la plus équitable possible, c'est des foutaises. Tout ça, ça a été démontré. Ça n'a pas été réfuté. Mais il y a eu une grande offensive économico-politique des couches gouvernantes et dominantes qu'on peut symboliser par le nom de Reagan et de Thatcher, et même de Mitterrand d'ailleurs.
Ta chèvre, arrière tes palabres, tes esclandres dans ta voix trahissent un rêve à l'abandon. Tu vas ramasser l'or. Tu vas ramasser l'or à plein pot. Les épaules candides portent le poids de l'injustice. Tout le monde il est beau, tout le monde il est méchant. Tu as morflé ta race et les nombres des bois asphyxient tes promesses. Maintenant seul dans le néant, c'est là ce que tu promènes. Ta chèvre, arrière tes palabres, des esclandres dans ta voix trahissent un rêve à l'abandon. Tu vas ramasser l'or, tu vas ramasser l'or à plein pot.
Alors, je voudrais qu'on revienne encore en arrière. Revenons à tous ces socialistes de l'utopie, vous parlez, vous avez évoqué Karl Marx. Mais en même temps, face à cette révolution industrielle, face à la montée de cette forme du capitalisme industriel, on a eu une suite d'alternatives à l'époque. On les a appelés les socialistes de l'utopie qui ont essayé de mettre en place des contre-feux, des contre-pouvoirs, des contre-systèmes.
Oui, alors on peut dire que la société industrielle capitaliste, les deux se sont mis en place en même temps, a engendré tant d'horreur qu'elle a immédiatement créé des réactions, des résistances, et puis des réactions d'essayer de concilier un type de fonctionnement industriel avec un autre type d'organisation sociale que le rapport capitaliste. Au fond, ce qui semblait le plus insupportable, le plus scandaleux, le plus contradictoire, c'était le rapport salarial. Hein, une société, surtout pour la société française, société issue d'une révolution dénonçant les injustices et tentant de construire une démocratie, se trouve avec des entreprises industrielles où les ouvriers perdent à peu près tous leurs droits. Donc on a une contradiction entre l'économie qui finalement fonctionne selon une logique d'ancien régime, d'un pouvoir absolu, arbitraire et tyrannique du patron et du capital, et puis une société politique qui se veut fondée sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Et l'un des premiers socialistes dit utopique, Pierre Leroux, a été extrêmement sensible à cette contradiction. Hein, et il proposait comme solution, c'est lui qui a développé l'idée, il appelait ça l'association. Hein. L'association, c'est-à-dire on n'a plus des salariés et des dépendants, mais des associés. Et il se méfiait beaucoup du socialisme. C'est lui qui a inventé le mot socialisme, mais il s'en méfiait beaucoup parce qu'il voyait très bien, il était conscient de la contradiction entre la liberté individuelle, auquel il restait très attaché, l'individualisme, et le collectivisme et ses côtés oppresseurs. Donc il a tenté de mettre en place dans le Limousin, avec l'assistance financière de George Sand, d'ailleurs, qui était sa maîtresse, de mettre en place une coopérative de production d'associés. Et ce courant associatif, on a parlé, il serait plus juste plutôt que de dire socialisme utopique, et la façon dont Marx a voulu éliminer question, de parler de socialisme associatif. Mmh. Ce courant associatif a été, bon, évidemment, on n'a pas renversé le capitalisme, mais il a été toujours vivant tout au long du 19e siècle et du premier 20e siècle.
Mmh. D'autres exemples, celui du familistère de Gaudin, Fourier, etc.
Il y a eu beaucoup d'initiatives de capitalistes philanthropes, hein, dans le fil de Owen en Angleterre, hein, qui avait mis en place les premières coopératives de production, hein, dont certaines ont survécu jusque assez récemment. Et il y a eu donc le familistère de Gaudin qui s'inspire du phalanstère de Fourier et qui fonctionne toujours, mais qui n'est plus un familistère, hein, et donc qui est une expérience intéressante. Il y en a eu comme ça pas mal. Certaines se sont délocalisées, pensant que dans les États-Unis, vierges, on pouvait faire des communautés. Il y a eu tout un courant extrêmement fort autour de Cabet, hein, et l'Icarie. Et donc, Cabet lui-même est allé finir ses jours dans l'Illinois, chez ses disciples. Beaucoup de ces expériences ont mal tourné, hein, comme les communautés qui sont nées et qui ont fleuri après 68, hein, les 68ards, victimes de leurs contradictions, des problèmes, des histoires personnelles. Enfin bon, c'était une forme de laboratoire pour voir comment il est possible de concilier un mode de production industriel et un rapport social moins déséquilibré.
Parlez-moi du développement durable. Voilà encore une expression qu'on entend à longueur de journée, le développement durable. On dit c'est bien développement, c'est beau le mot développement, et puis durable c'est bien. Hein, il y a des tas de mots comme ça, croissant, développement durable, libéralisme, c'est beau libéralisme, il y a liberté dans libéralisme, développement durable.
Alors, je considère que le développement durable est la plus grande escroquerie intellectuelle du siècle, hein, et c'est le plus bel oxymore engendré par l'esprit humain, c'est-à-dire contradiction. On a une contradiction réelle, hein, l'incompatibilité fondamentale, radicale du développement économique avec la survie de la planète, tout simplement pour une raison très élémentaire, hein, c'est que un monde fini est incompatible avec une croissance infinie. Et à partir de là, évidemment, pour ne rien changer, pour ne pas remettre en cause le système, on cherche toutes sortes de biais, et le meilleur biais, évidemment, pour ne pas changer les choses, c'est de changer les mots. On accole deux mots contradictoires. Le développement, qu'il s'agit absolument de faire durer, d'ailleurs beaucoup entendent développement durable, puisqu'on a traduit la sustainabilité par durable en français, développement durable comme un développement qui pourra durer éternellement, hein, et la préservation des écosystèmes ou de la biosphère, c'est-à-dire la soutenabilité. Alors la soutenabilité, l'idée qu'il faut sauver la planète, c'est évidemment une idée magnifique. Le problème, c'est que c'est totalement incompatible avec le développement réellement existant, mais aussi avec l'imaginaire du développement, c'est-à-dire l'imaginaire d'un toujours plus, d'un système sans limite. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au fond, le développement durable met d'accord tout le monde, puisque chacun y trouve son compte. Les écologistes disent, bon, c'est très bien, c'est la survie de la planète. Les industriels, c'est très bien, c'est la survie de l'industrie. Et tout le monde est d'accord. Alors, je pense qu'un mot d'ordre qui met d'accord les gens qui ont des intérêts fondamentalement contradictoires est une mystification. C'est comme une clé qui ouvrirait toutes les portes.
Alors, le 26 novembre, à l'occasion de la journée sans achat, arrêtez d'acheter.
On pourrait dire que le raw que vous avez, qui a ponctué avec beaucoup de grâce cette heure, n'est pas de moi, donc vous pouvez retirer ça des droits d'auteur. Voilà, merci à Serge Latouche. Un bouquin de Serge Latouche réédité aux éditions de La Découverte. L'occidentalisation du monde, c'est une réédition. Et puis un bouquin que me signale Antoine Chao, qui vient de sortir aux éditions du Croquant. C'est bien ça, édition du Croquant. Ouais, ça c'est de Stéphane Bonneveau. Développement insoutenable pour une conscience écologique et sociale, avec une préface de Marie-Dominique Perrault. Voilà, c'était signalé. L'occidentalisation du monde, j'en ai parlé. Le dernier numéro du bimestriel des casseurs de pub, La Décroissance, le journal de la joie de vivre, numéro consacré à la grève de la consommation, ainsi que le dossier casseurs de pub publié en novembre, c'est-à-dire ces jours derniers. À faire demain, ça c'est le conseil que vous donne Pascal Pascariello, ne rien acheter, voilà, et même pas, c'est embêtant parce qu'on même, peut même pas acheter le numéro bimestriel des casseurs de pub, voilà, toutes les informations sont disponibles sur le site www.casseurdepub.net, casseur de pub, casseur c'est au pluriel et c'est tout attaché, je recommence, www.casseurdepub.net, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Christophe Papon. C'est Yann Chouquet et Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale, il faut bien le dire. On a reconnu François Ruffin qui était en expédition auprès du Mont Blanc. C'était un élément d'une émission du mois de mai ou juin, je crois. Assistante Pascal Pascariello et Christophe Imbert s'occupe du répondeur avec ses très grandes oreilles. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Et puis, il me reste un petit peu de temps, non, pour parler des repères de la basse, j'y suis. Alors, il y a un auditeur qui l'a signalé aujourd'hui, c'est un événement à La Pradelle, puis Lorins, village de 350 habitants entre Perpignan et Carcassonne, au bar du château. Eh bien, c'est le premier rendez-vous du au repère des amis de là-bas, si j'y suis, à 18h30. Et voilà, il y a toute une série de repères de là-bas, si j'y suis. Je rappelle le principe, c'est très simple. Vous écoutez là-bas, si j'y suis, vous écoutez France Inter, il y a peut-être des gens dans le coin qui l'écoutent aussi, qui écoutent aussi, et vous avez envie de vous rencontrer, pourquoi pas, discuter, prendre un verre, refaire le monde. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous dégotez un bistrot sympa, ouvert, où tout le monde peut venir, et puis vous nous appelez au 01 56 40 37 37, vous dites on a trouvé le bistrot, on a trouvé le patron sympa, et on va se retrouver tel jour à telle heure, et puis ensuite, eh ben voilà, vous faites partie des repères. Et alors maintenant, ben évidemment, c'est le moment de la pub.